Seigneur, tu nous dis dans ta parole, là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Seigneur, nous te remercions de ce que tu sois présent ce matin et que nous puissions commencer cette nouvelle semaine devant toi. Nous voulons te remettre ce culte, Seigneur, que tu vraiment instruises, enseignes par ta parole, que tu puisses recevoir notre adoration. Seigneur, conduis et bénis ces moments. Amen. Nous sommes invités, comme chaque dimanche, à nous souvenir de ce que le Seigneur a fait pour nous. Et nous voulons donc prendre le texte de 1 Corinthiens 11, qui nous introduit à ce moment. 1 Corinthiens 11, verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. » Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Donc, comme je disais, nous sommes réunis pour nous souvenir que le Seigneur a souffert pour nous et que nous sommes au bénéfice de tout ce que le Seigneur a fait pour nous. On va se souvenir que son sacrifice nous conduit dans les cieux vers l'éternité et que nous n'irons pas en enfer si nous acceptons que ce sacrifice est pour nous, pour chacun de nous. Et je vous propose de lire Romains 5, versets 1 à 11. Romains 5, versets 1 à 11. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu, par la foi, accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve et cette victoire l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par le sang, serons-nous sauvés par lui de sa colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Il y a dans cette lecture le verset 10 qui a retenu mon attention. Et dans ce verset 10, il y a trois mots importants que j'ai relevés. Et le premier mot, c'est « ennemi ». Nous étions ennemis. Il nous présente non seulement comme des êtres sans force, c'est le texte un peu avant, comme des pécheurs, ça nous le savons tous, nous en sommes tous convaincus, du moins je l'espère. Mais il nous présente aussi comme des ennemis de Dieu. Ennemis, nous le sommes par nature, car nous étions hostiles et révoltés. Mais aussi, nous sommes en plus des enfants de colère. La colère de Dieu était sur nous. Et nous le sommes par nature, nous avons hérité de ça par nos parents et toutes les générations. Et nous étions donc des enfants de colère comme les autres. Nous n'avions pas de différence avec les autres. On rappellera Éphésiens 2, je vous le lis, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Et ce chapitre 2 des Éphésiens vient après le premier, qui a un chapitre tellement haut en spiritualité, et il rappelle aux Éphésiens qu'avant d'être comme ils étaient décrits au premier chapitre, eh bien ils étaient comme ils sont, comme c'est décrit au chapitre 2. Et puis, si on continue le chapitre 2 des Éphésiens, « Puis le rapprochement a été fait par la grâce, par la volonté de Dieu et par l'obéissance de son Fils qui est mort à la croix pour nous. » Donc, nous sommes dans le souvenir de Jésus, le Fils. C'est le Fils de l'obéissance. C'est le souvenir de l'obéissance par la souffrance. Éphésiens 2, verset 8, « C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Nous sommes donc maintenant sauvés par la grâce, justifiés par le Seigneur Jésus-Christ par son sacrifice. Et le deuxième mot de ce verset 10 de Romains 5 que j'ai retenu, c'est « Nous sommes sauvés ». C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier, dont nous sommes les premiers. On relit ce verset 10 dont je vous parle depuis un instant, mais je vais vous le relire dans la traduction Darby. Car si, étant ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort en son Fils, beaucoup plus tôt, ayant été réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. L'apôtre Paul fait donc apparaître une idée nouvelle, celle de la réconciliation avec Dieu. Réconcilier, c'est donc le troisième mot que j'ai retenu dans ce verset. Donc, il y a une nuance entre être sauvé et réconcilié. Ou plutôt, il y a une temporalité, d'après l'apôtre, réconcilié puis sauvé. Ou, pour être sauvé, dit l'apôtre, il y a eu réconciliation. Alors, réconcilier, c'est se mettre en harmonie avec quelqu'un. C'est se remettre en harmonie avec quelqu'un. Littéralement, pour nous, réunis par le sacrifice. La réconciliation est le rétablissement d'une relation qui était perdue. Il y a une nuance très importante entre le pardon et la réconciliation. Le pardon implique une décision personnelle, mais qui peut rester secrète. Mais la réconciliation s'offre à celui qui a été offensé, et le Seigneur donc nous a offert cette réconciliation, non seulement le pardon, mais la réconciliation. Il dit que Christ nous a réconciliés avec Dieu. S'il a fallu une réconciliation, cela signifie que notre relation avec Dieu a été brisée. Puisque Dieu est saint, c'est forcément de notre faute. Et pourtant, Dieu a voulu cette réconciliation, il l'a voulu par amour pour nous, il l'a voulu pour aller plus loin que le pardon. Il l'a voulu pour rétablir la relation perdue et faire la paix avec nous. Il dit à ses disciples, après la résurrection, « Je vous donne ma paix ». Il a voulu retrouver la paix avec sa créature, avec nous. Colossiens 1, verset 20, « Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix avec lui par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis, nous y revenons, par vos péchés et par vos offenses, et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés, par sa mort, dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. » Dans une réconciliation, il y a deux personnes, bien entendu, qui se retrouvent et qui s'harmonisent de nouveau, parce que chacun veut rétablir cette relation. Le Seigneur a fait le premier pas, mais non seulement ça, il n'a pas fait seulement le premier pas, mais pour ce qui nous concerne ce matin, pour le repas du Seigneur, nous pouvons considérer aussi qu'il était le seul à payer la dette. Il y a eu réconciliation, certes, mais lui seul a payé la dette. Il n'y a pas eu de négociation, il n'y a pas eu de partage de cette dette. Un seul, le Fils de Dieu, a payé l'entièreté de la dette pour nous proposer et pour obtenir ce rapprochement avec nous, pour celui, bien sûr, qui veut l'accepter. Jésus nous dit « Je t'ai sauvé, sois heureux, mais n'oublie pas que la réconciliation que je voulais, que Dieu voulait, je l'ai acceptée et j'en ai payé le prix. » Celui qui entend ces paroles doit décider d'accepter ce pardon, sinon il n'y a pas de réconciliation possible, malgré la hauteur du prix que le Seigneur a donné. Aussi, par le repas, on témoigne que le Seigneur a obtenu la réconciliation avec nous, puisque nous avons accepté que nous étions pécheurs et que nous avions besoin de lui. Et maintenant que nous sommes réconciliés, nous sommes aussi sauvés par le sang de la grâce. On témoigne en prenant ce repas que c'est lui qui a pris l'initiative de nous réconcilier et que maintenant nous y sommes et que nous voulons le suivre. Nous sommes reconnaissants parce qu'il nous a donné la vie éternelle, parce que nous sommes sauvés, parce que nous avons la foi en ce sacrifice de la réconciliation. Nous prions. Seigneur, nous te remercions parce que tu es monté à la croix pour nous, tu nous as remplacés sur cette condamnation. Seigneur, tu as voulu nous sauver. Mais Seigneur, tu t'es approché de nous et tu as voulu se rapprocher de nous par le sacrifice et par, Seigneur, la conviction que nous étions des pécheurs. Alors Seigneur, tu as fait le maximum pour nous. Nous avons su répondre à ton appel parce que nous avons eu la pression de ton esprit, si on peut dire. Nous avons été convaincus de notre péché. Ça, c'est encore une vraie grâce. Et maintenant, Seigneur, nous sommes réconciliés avec toi. Nous te remercions, Seigneur, pour ce projet que tu as eu d'amour pour nous, pour chaque homme et pour nous en particulier. Nous te remercions dans le nom du Seigneur Jésus. Amen.
On connaît tous par cœur ce verset central de la Bible, de Jean 3, 16, « Car Dieu a tant aimé le monde que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Nous qui sommes ici, pour la plupart du moins, je l'espère, nous avons cru. Donc la vie éternelle nous est accordée, nous l'avons. Maintenant, je vais vous poser une question. La vie éternelle, est-ce que c'est pour maintenant ou est-ce que c'est une promesse pour plus tard? Est-ce qu'elle a déjà commencé ou est-ce qu'elle est réservée pour après la mort à ceux qui ont cru? Qu'est-ce que la vie éternelle? La réponse est claire, il n'y a aucune équivoque là-dessus. La Bible est très explicite. Elle nous donne une précision très claire. Dans Jean 17 au verset 3, je vous le lis. Vous pouvez le lire avec moi si vous voulez, hein. Jean 17, 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Il ne nous est pas dit que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent plus tard, après la mort ou dans un avenir futur, mais c'est pour maintenant. Un chrétien a dit, il n'y a pas d'alternative après la mort. Les arbres gisent dans le lieu où ils sont tombés. Si nous ne devenons pas des participants à la vie éternelle dans notre existence présente, nous ne le deviendrons jamais. Si donc je dis que je crois, je peux affirmer que j'ai la vie éternelle, comme le dit Jean 3, 16, mais je pose la question autrement. Est-ce que je peux être affirmatif si je la pose comme ça? Je connais Dieu et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. C'est ça la vie éternelle. Là, comme nous l'avons dit plusieurs fois, il n'est pas question de remettre en cause notre salut, mais de savoir si je connais mon Dieu, comme l'entend la parole, et le seul chemin qui mène à lui, le Seigneur Jésus. Le Seigneur a dit dans Jean, au chapitre 5 et au verset 24, « en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. » Et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. La vie éternelle est un acquis, pas une perspective d'avenir. Elle est intriquée, liée à la connaissance de notre Dieu. Les questions qui se posent, c'est qu'est-ce que ça veut dire connaître Dieu? Qu'est-ce qui m'empêche de le connaître? Et comment le connaître? Tout d'abord, que veut dire connaître Dieu? Il y a dans la Bible une parole qui m'a frappé, et qui mérite qu'on s'y attarde un tout petit peu. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 4, le Seigneur est face à un homme qui est possédé du démon, d'un esprit impur. Et ce démon lui dit au verset 34 de Luc 4, c'est un démon qui parle, « Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre, je sais qui tu es. Le Saint de Dieu. » Ce démon, peut-on dire qu'il connaît Jésus? En tout cas, bon, il ne le connaît pas, évidemment, réellement. Mais il reconnaît dans ce Jésus de Nazareth celui qui est le Saint de Dieu. Ce que les hommes ont refusé de croire. Quelle leçon! L'homme, par sa nature, a méprisé le Saint de Dieu. Je l'ai méprisé, ça nous a été rappelé tout à l'heure. Nous étions ennemis. Ésaïe 53, méprisé et abandonné des hommes. C'est le verset 3. Voilà ce dont est capable la nature humaine. En faisant confiance à la nature de l'homme et en s'appuyant sur elle, voilà ce qu'elle peut faire, mépriser le sein de Dieu. Le Seigneur Jésus disant dans Jean 8 au verset 12, Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Et dans Jean 1, verset 9 à 11, on peut le lire ensemble, chapitre 1, verset 9 à 11, on nous parle toujours de la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Les hommes, moi, ont refusé de voir la lumière, de croire à la vérité, et ce démon dont nous avons parlé dit, je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Il sait qui est Jésus, qu'il est là pour le perdre, pour le vaincre. Mais pour autant le connaît-il ? On a dit que non. Il sait comme Satan, sait contre qui il se bat. Mais il ne connaît pas le Seigneur Jésus comme la parole l'entend. Reconnaître n'est pas connaître. La définition du petit Robert nous dit que connaître quelqu'un, c'est en avoir l'expérience. Sur le plan biblique, ça va encore beaucoup plus loin. Connaître, c'est avoir une relation personnelle, intime, profonde et étroite. En fait, connaître Dieu, c'est connaître son amour, puisque la parole nous dit que Dieu est amour. Et elle va même plus loin. 1 Jean 4, versets 7 et 8, je vous les lis, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. » Donc, c'est connaître Dieu, ça se manifeste par l'amour. « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Alors, on va prendre quelques exemples. En mettant en parallèle mon propre comportement face à certaines situations, et puis l'attitude du Seigneur Jésus. On vient de lire « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu ». Bon, c'est bien. « Seigneur, je t'aime. Et comme Pierre, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Mais il y a des limites. Mes enfants ne m'obéissent pas. Je me fais remballer, remettre en place dès que j'ouvre la bouche et que je parle de toi. » C'est quand même irritant, ça commence à bien faire. Qu'a fait Jésus sur la croix ? Lui, le Saint de Dieu. Luc 23, 34, Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Devant ces hommes qui l'ont persécuté, qui se moquent de lui alors qu'il est en train d'agoniser, devant la demande de leur pardonner, les hommes au pied de la croix se partagent ses vêtements en les tirant au sort. Sa situation était-elle comparable à la mienne ? Bon, d'accord. Mais cet homme-là, qui tient des propos contre toi, Seigneur, ce politicien qui dit des mensonges, qui fait tous ses efforts pour avoir des voix, qui défie toutes tes lois, tous tes commandements, comment je l'aimerais ? Pire, je ne peux pas le supporter. Ça vous est jamais arrivé de dire ça ? Moi, oui. Alors toujours sur la croix, cet homme qu'il y a quelques instants encore, ce brigand, qui injuriait le Seigneur et qui maintenant se tourne vers lui, quelle est la réponse de celui qui est amour ? Luc 23, 44, voilà ce qu'il va lui dire. « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Tout est oublié, les insultes, les crachats des hommes. Tout est oublié. L'amour de Dieu n'a pas de limite. Il l'a exprimé d'une façon qu'on ne peut imaginer, en sacrifiant son propre fils. Celui en qui il a mis toute son affection, il l'a laissé mourir sur la croix de Golgotha parce qu'il t'aimait, parce qu'il m'aimait. Et Jésus n'a pas dit un mot, pas un seul mouvement de révolte, alors qu'il avait la possibilité de faire taire tout le monde, de les confondre. Il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Ésaïe 53, verset 7. Bon, il y a peut-être des exceptions quand même. Quand je vois ces jeunes dans la rue qui cassent les vitrines et qui brûlent des voitures, n'allez pas me dire qu'il faut les aimer. Matthieu 5, 22. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère « Raca » mérite d'être puni par le Sanhédrin. Que celui qui lui dira « insensé » mérite d'être puni par le feu de la Géhenne. C'est Jésus qui parle. Il n'y a plus d'échappatoire. Dieu est amour. L'amour de notre Dieu est sans limite. Il nous le démontre dans des circonstances qui vont bien au-delà de ce que nous avons connu, de ce que nous ne connaîtrons jamais. Il voit la réalité des choses, oui, car il est un Dieu de vérité, mais il aime par-dessus tout. À qui dit-il qu'il aime dans l'amour éternel? Malgré les infidélités, malgré la rébellion, malgré le fait que le peuple d'Israël, dont Jérémie nous dit qu'il refuse de se convertir, que même il renie, il dit que Dieu même n'existe pas. Ça, c'est Jérémie 5, 12. Voilà ce que dit leur Dieu. Jérémie 31, versets 1 à 3. Là encore, on peut le prendre ensemble. Jérémie 31, versets 1 à 3. En ce temps-là, dit l'Éternel, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël, et ils seront mon peuple. Ainsi parle l'Éternel. Il a trouvé grâce dans le désert, le peuple de ceux qui ont échappé au glaive. Israël marche vers son lieu de repos. De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Voilà l'amour de Dieu. Voilà celui qui nous a manifesté. On nous a rappelé tout à l'heure, nous étions ennemis. Nous étions complètement insensés et il nous a aimés. Le premier. Que dire et que faire face à une telle démonstration d'amour parfait? Rien. Sinon, le voir, adorer et le connaître, encore et encore. La parole nous dit encore dans la première de Jean au chapitre 4, versets 19 à 21. 1 Jean 4, 19, 21. Là encore, on peut le prendre ensemble. Première de Jean, chapitre 4, versets 19 à 21. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Nous, et moi, avons cette tendance, en tout cas c'est mon cas, à mettre les circonstances en avant pour justifier ma réaction. J'ai raison de mériter face à celui qui n'est pas d'accord avec moi, qui me manifeste son agressivité ou même juste son désaccord. Mais en cela, je néglige celui qui a tout fait pour moi. Je dis bien tout, car il a livré sa propre vie alors que j'étais son ennemi. Je néglige l'amour de mon Seigneur pour moi et je méprise le Saint de Dieu, comme on l'a dit précédemment. Alors qu'est-ce qui m'empêche réellement de connaître mon Seigneur? On a parlé il y a peu de temps de ces petits renards qui venaient manger les raisins de la vigne, de ces petits péchés que je tolère progressivement en disant « c'est pas si grave que ça ». En donnant des explications ou pire des excuses à mes égarements, et au final ces petits renards mangent toute la récolte pour qu'il n'y ait plus aucun fruit pour le Seigneur. Toute tolérance du péché, si petit soit-il à mes propres yeux, est un obstacle à la marche et à la connaissance approfondie du Seigneur. Le Seigneur lui-même a crié sur la croix, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» On en connaît la cause, parce qu'il a été fait péché pour moi. Nous venons de parler de l'amour dans nos relations avec autrui, mais en fait, tout n'est motivé que par l'amour de Dieu pour nous et par l'amour de nous pour notre Dieu et pour les autres. C'est le fondement de la Bible, de la vie du chrétien. Tout péché, quel qu'il soit, sous toutes ses formes, entrave ma connaissance du Seigneur. Que ce soit la négligence,
le mépris de l'autre, une parole blessante, le fait d'être vexé, qui est une manifestation d'orgueil, la distraction par mes propres désirs, une désobéissance à la parole, la liste peut être très longue. Tout cela ne manifeste qu'une chose, le manque d'amour pour mon Seigneur. Dimanche, on nous a rappelé cette parole de reproche à l'église d'Éphèse, dans Apocalypse 2, verset 4. « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » C'est parce que nous venons de dire que cela se prouve. Ces petits renards qui ont mangé les fruits de la vigne, qui étaient destinés au Seigneur, ces petits péchés que j'ai progressivement tolérés, et ainsi je me retrouve finalement comme le chrétien de Laodicée, malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu es riche pour Dieu? Est-ce que tu as une bonne vue? Ou est-ce que tu es vêtu devant ton Dieu? C'est la question que je me suis posée. Soyons vigilants. En tolérant ces petits renards, ces petits péchés, je prends pour peu de choses. Le fait que Jésus ait transpiré des grumeaux de sang à Gethsémané face à l'épreuve qui l'attendait et que ces petits péchés ont été la cause de son cri d'abandon sur la croix. Alors on pourrait croire en parlant de tout cela qu'on s'est éloigné de notre sujet initial, connaître. Mais non. La vie éternelle, c'est connaître notre Dieu. C'est cela la vie éternelle. Et le Seigneur nous donne la façon de le connaître. De le connaître tout court ou de le connaître mieux. On va prendre dans la première de Jean au chapitre 2, versets 3 à 6. Première de Jean, chapitre 2, versets 3 à 6. Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Gardez ses commandements. Pas par l'égalisme, comme il le dit, mais parce que je l'aime. Quelle que soit notre marche, notre degré de connaissance, il n'y a aucun obstacle pour davantage le connaître. Si je le veux, on en revient toujours. Là, la balle est dans notre camp. Nous venons de lire « Celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. » Il y a toujours ce petit mot de deux lettres, « en lui ». Parce qu'en nous, rien n'est possible. Sans lui, je suis malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Si je reste ainsi, c'est que ça me plaît, que je veux rester comme ça. Jean 14, verset 15. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Et au verset 21, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Voilà la condition sine qua non pour laquelle le Seigneur se fait connaître et que je prouve que cette vie éternelle est en moi, cette vie nouvelle qui a mis de côté l'ancienne vie, celle de la vieille nature, celle qui juge, celle qui fait des reproches, qui condamne et qui blesse, pour faire part à celle qui pardonne, qui demande pardon, qui aime en vérité. Quand as-tu demandé pardon pour la dernière fois? Si ça fait des lustres, il y a des questions à se poser. 1 Jean 1, toujours, on prend beaucoup de versets dans la première de Jean, versets 8 et 9. « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ne cherchons aucune solution en nous-mêmes, aucun appui sur nos propres fondements, mais appuyons-nous sur ce que dit la parole. » On va prendre justement ce que dit la parole dans Proverbe 2, les 7 premiers versets. Proverbe 2. On fait un petit peu de gymnastique dans la parole. Versets 1 à 7. « Mon fils, Donc c'est aux chrétiens que ça s'adresse. Si tu reçois mes paroles, et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. D'ici, des conditions que notre Seigneur met devant nos yeux. Si, et ensuite recevoir, garder, être attentif, incliner, appeler, élever la voix, chercher, poursuivre. Voilà tous les verbes qu'il emploie. Tout cela, c'est à moi de le faire. Est-ce que j'aime mon Seigneur pour lui être agréable? Oui, Seigneur, je suis d'accord avec toi. Mais j'ai d'autres choses à faire. Autrement dit, laissons les petits renards faire leur travail. Devant mon Dieu, lorsque je paraîtrai devant lui, et il n'y aura aucune exception, serai-je comme le roi Belshazzar qui, par la bouche de Daniel, le Seigneur a dit « Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. » Le Seigneur nous avertit chacun, parce qu'il n'éteint pas le lumignon qui fume. Rappelons-nous qu'il a tout pouvoir et que son désir est de nous faire vivre de sa vie. Sa vie, elle est à notre disposition. C'est à moi de la prendre. On voit comment l'apôtre Paul est désireux que cette connaissance du Seigneur grandisse chez les Éphésiens. Dans Éphésiens 3, versets 14 à 19, là encore on peut les lire ensemble, on les connaît bien ces versets. Versets 14 à 19 du chapitre 3 des Éphésiens. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, et connaître Christ en fait, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. On ne comprend pas ce que ça veut dire, être rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Mais c'est ça que le Seigneur veut. C'est son but. Ça dépend de nous. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse. Toi, le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, comme il est écrit, c'est pas une philosophie. C'est pas une théorie. C'est une vie. C'est la vie, celle qui ne périt jamais puisqu'elle est éternelle. Toute autre vie est morte et entrave cette nouvelle vie, connaître Jésus. Le prophète Ésaïe a exercé son ministère 8 siècles avant le Seigneur Jésus. Il a fait ce constat au début de son livre. Le pays se prostitue. Il abandonne l'Éternel. Malgré les appels de son Dieu à revenir à lui, malgré son désir de lui parler, en le comparant à une femme infidèle qui s'est prostituée. Osée 2, verset 16, voilà, je vous le lis. « Voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. » Et tout cela aura une conséquence terrible. Osée 4, 6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Quel constat et quelle tristesse. Et le site pour ce peuple sera une Jérusalem détruite, un peuple en captivité. On peut faire évidemment un parallèle avec notre temps, ce qui démontre que le cœur de l'homme n'a pas changé. Osée, toujours dans le chapitre 4, je vous lis les versets 1 à 3. « Écoutez la parole de l'Éternel, enfant d'Israël, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays, parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Il n'y a que parjure et mensonge, assassinat, vol et adultère. On use de violence, on commet meurtre sur meurtre. C'est pourquoi le pays sera dans le deuil. Tous ceux qui l'habitent seront languissants, et avec eux les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Même les poissons de la mer disparaîtront. On voit le constat actuellement, toutes ces catastrophes qui sont en train de s'accumuler. N'est-ce pas une marque de la colère de Dieu ? Soyons vigilants. Et pourtant, le Seigneur ne se lâche jamais. Osée 6, verset 1 à 3, « Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours, le 3e jour il nous relèvera, et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. » C'est une certitude. Mais venez, connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Il ne faut pas attendre d'être mort pour être vivant. Si, mort par notre propre nature, pour être vivant en Christ, de sa vie éternelle. C'est pour aujourd'hui, c'est pour maintenant, c'est pour tout de suite. Tout a été parfaitement accompli pour cela, pour que ce soit possible, mais d'une seule façon, en Christ. Les conditions ne sont pas si terribles que ça. L'ennemi voudrait nous faire croire le contraire, qu'on va tout perdre. On va perdre des choses, oui, mais pour gagner quelque chose dont on ne mesure pas ni l'importance, ni la richesse. C'est incomparable. C'est tellement grand. L'apôtre Paul pouvait dire dans Galates 2:20 « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. » J'ai compris cette importance de ce qu'il dit à la fin. Sa raison de vivre, il la met devant nos yeux. Le Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Ésaïe 35 nous dit « Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » C'est le cas. Dans la tranquillité, le repos, le calme et la confiance. Voilà ce qu'il nous promet. Mais qu'est-ce qu'il dit de ce peuple ? Mais vous ne l'avez pas voulu. Tout est là. Est-ce que je le veux ? À moi de vouloir dire oui ou non, ou plutôt de vouloir faire oui ou non. Rappelons-nous que si Satan lui-même a pu dire « Je sais qui tu es le Saint de Dieu », je n'aurai pas d'excuse lorsque je serai face à lui. Hébreux 12, 14 nous dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » C'est le Saint de Dieu. Et il veut que nous soyons saints. Il veut nous rendre comme lui. Mais quel but merveilleux ! Quel privilège nous avons ! Alors ne nous cherchons pas à nous cacher, mais marchons devant sa face. Soyons intègres. Et puis cherchons à le connaître davantage et davantage et davantage encore. C'est quelque chose de merveilleux. Il nous est dit dans Proverbe 3 au verset 6, « Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Darby dit, il dit pas « Reconnais-le dans toutes tes voies », il dit « Dans toutes tes voies, connais-le. » Et la suite, il dirigera tes sentiers. Alors on pourra lui faire confiance pour la suite, pour les jours qui viennent, en apprenant encore à le connaître. On n'aura rien à perdre, bien au contraire. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin.
Seigneur, nous te remercions de ce moment privilégié que tu avais réservé pour nous dans ta grâce. Tu nous as montré que ton sang, tes souffrances atroces sur la croix, nous avaient pardonné tous nos péchés, si nous le reconnaissons. Mais tu nous as montré aussi qu'il nous donnait cette réconciliation. Et dans cette réconciliation, il y a la perfection que tu veux pour nous dans la confiance en toi et en notre Père. Et puis, tu nous as longuement montré maintenant que ce qui compte pour nous, ce n'est pas ce que nous pouvons ou nous voulons être, c'est te connaître. Et pour te connaître, il faut que nous mourions c'est-à-dire que nous te faisions une totale confiance, mais que tu nous recherchions, que nous te recherchions de tout notre cœur, et la bénédiction sera immense, au-delà de ce qu'on peut penser ou espérer. Ô Seigneur, que ces paroles deviennent pour chacun de nous réalité de plus en plus tous les jours, pour que cette joie illumine nos cœurs et notre regard, et qu'ainsi tu puisses te servir de nous pour annoncer vraiment la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Amen.